Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, parce qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme.
À l'heure actuelle, il n'y a pas un seul État africain indépendant qui n'ait reconnu notre gouvernement démocratiquement issu de la volonté du peuple. De même, tous les États extra-africains avec lesquels le Togo entretenait des rapports ont également tous reconnu la légalité et la légitimité du pouvoir exercé par notre gouvernement. Plus aucun pays du monde ne boude désormais le Togo.
Ce magazine a été enregistré quelque temps avant la disparition du président Ignacy Gbeyadima, l'ex-chef de l'État du Togo. Il avait accepté de nous accueillir pour évoquer l'histoire de son prédécesseur. Courtois, modeste et cherchant toujours à gagner la sympathie de tous, Nicolas Gruninski était destiné à la sérénité de la vie familiale et non au tumulte des tribunes. Éliminé du pouvoir par son beau-frère Sylvanus Olympio à l'issue d'un scrutin, replacé à la tête de l'État togolais après la mort tragique de ce dernier, il est certainement l'unique civil que les militaires ont porté au pouvoir sans qu'il ne le leur ait demandé. Pour parler de ce leader atypique des années d'indépendance, nous avons deux invités prestigieux qui resteront avec nous dans les trois volets que nous lui consacrons. D'abord, le président de la République du Togo, son Excellence Ignacy Gbeyadima, qui était le chef d'état-major de Nicolas Gruninski. C'est encore lui qui a pris la place de ce dernier en 1967, lorsqu'il a quitté le pouvoir. Notre second invité est M. Haïté Mivédor, qui est le grand chancelier de l'ordre du Mono. Il a activement participé à l'histoire de cette période.
Janvier 1963, le monde entier a les yeux tournés vers le Togo. Sylvanus Olympio, le premier président élu, vient d'être tué dans un coup d'État orchestré par un comité militaire insurrectionnel. On s'attend donc logiquement à ce que les militaires s'installent au pouvoir. Pourtant, à la surprise de tous, ce comité militaire va solliciter un civil, Nicolas Gruninski, l'ancien premier ministre et beau-frère du président renversé, pour former un gouvernement de coalition qui va diriger le pays et organiser des élections. Devant la surprise et la désapprobation de l'opinion internationale, surtout accompagnée par l'hostilité manifeste de certains voisins du Togo, le dit comité militaire organise une conférence de presse pour expliquer ses motivations. Extrait de cette conférence d'un genre plutôt particulier.
Merci beaucoup, on vous a convoqué ici ce soir, c'est pour vous donner une idée de la situation actuelle au Togo. Actuellement, le président Gruninski a accepté de former un gouvernement. Or, nous avons insisté, et M. Gruninski est d'accord avec nous, que ce gouvernement soit un gouvernement d'union nationale. Il ne faudrait pas qu'on retombe dans les mêmes erreurs.
Le comité insurrectionnel intervient-il dans les pourparlers engagés en vue de la composition du gouvernement?
Nous vous avons déclaré que nous étions apolitiques et nous maintenons notre position. Nous sommes apolitiques.
Est-ce que vous pouvez nous dire, mon lieutenant, si votre organisme, le comité insurrectionnel, est appelé à disparaître prochainement pour laisser la place à ce gouvernement provisoire?
Dès que le gouvernement provisoire sera en place, le comité insurrectionnel s'occupera uniquement des affaires militaires.
Monsieur le Président Eyadema, plus de 30 ans se sont écoulés depuis ces événements. Mais une question demeure. Pourquoi le comité militaire auquel vous apparteniez a-t-il choisi de renverser le président Olympio?
Lorsque ça n'allait pas du tout, les prisons étaient remplies, beaucoup sont partis en exil, la façon dont les prisonniers vivaient dans des cachots. Je vous donne un exemple du maître Santos qui, dans sa prison, il ne savait pas quand il est nuit, quand il est jour. Et lorsqu'il a été libéré, eh bien, on l'a envoyé à Dakar pour être soigné. Et en 6 mois, il a recouvré. Il était pratiquement aveugle. Il a recouvré, n'est-ce pas, sa vie.
Nicolas Gruniski va donc accepter de former le gouvernement de coalition. Mais il tient absolument à s'expliquer publiquement devant la presse afin que l'on ne l'associe pas à ce coup d'État sanglant et que l'on ne l'accuse pas non plus de l'assassinat de son beau-frère. Il exige donc que le porte-parole du comité insurrectionnel, le lieutenant Congo, s'en explique.
Il faudra que le comité, parce que quand même, pour nous, un point est capital, puisque la réaction à travers le monde voudrait faire passer le Togo pour un pays d'assassins. Il faudra que ceux qui ont été les artisans de ce coup d'État expliquent devant vous quelles sont les conditions qui ont amené la mort du président Sylvanos Olympio. Moi, je suis hors du coup. On m'a appelé avec insistance pour venir prendre en main les affaires. Je suis venu. Et j'aimerais quand même que tout soit clair devant le monde. Et je demande à nos amis, qui sont les promoteurs du coup d'État, de faire connaître au monde entier les circonstances de la mort de Sylvanos Olympio.
Est-ce que vous pouvez répondre à cette question du président pressenti?
On ne peut pas tout d'assassin. Certains même nous traitent de factieux. Je crois que c'est pas vrai. Je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée par le président Gruniski pour vous exposer les faits. D'abord, je tiens à vous dire que l'ex-président Olympio ne s'est pas conduit un homme d'État. Parce que quand le commando qui était chargé d'aller le récupérer est arrivé chez lui, le commando avait reçu des ordres stricts. Prendre le président et l'amener. Actuellement, nous avons ici des ministres qui ont été trouvés avec des pistolets sur eux. Or, ces ministres ne se sont pas servis de leurs armes et ne leur est rien arrivé. Quand le chef du commando a frappé à la porte du président Olympio, le président Olympio a repliqué un tir. Le chef du commando a tiré quelques rafales de pistolets mitrailleurs pour faire comprendre au président qu'ils étaient armés et qu'ils étaient décidés. Le président Olympio a sauté par la fenêtre et il est parti. Il s'est caché dans sa cour. Le matin, on l'a récupéré et on lui a dit d'aller s'habiller pour qu'on l'amène ici au camp. Après s'être habillé, le président Olympio, une fois sur la route, a pris la fuite en direction de l'ambassade d'Amérique. C'est ça qui a provoqué sa mort.
Pour vous donc, la mort du président Olympio est une mort accidentelle?
C'est une mort accidentelle.
Monsieur le président Iyadema, pourquoi avoir choisi Gruniski? Pourquoi l'armée n'a-t-elle pas gardé le pouvoir comme c'était souvent le cas dans plusieurs pays d'Afrique dans ces années-là?
Vous savez que l'armée n'avait aucune ambition politique.
Monsieur le chancelier Mifdor, je sais que vous n'étiez pas du même bord que le président à cette époque-là. Mais selon vous, étaient-ce là les seules raisons qui ont poussé l'armée à renverser Olympio? C'est une attitude un peu spéciale, non?
C'est sa revendication qui l'ont conduit là. Et c'est la première fois que cela se passe dans notre zone d'Afrique. Et c'est pour ça que nous sommes convaincus que ce qui s'est passé n'était pas une ambition de l'armée de prendre le pouvoir.
Et quelles sont, Monsieur le Président, les réelles raisons du choix de la personne même de Nicolas Gruniski?
Nous ne sommes pas des gens régionalistes. Tout simplement, Monsieur Gruniski était Premier ministre. Et c'est pourquoi l'armée a pensé que, comme il a déjà, n'est-ce pas, été Premier ministre, il fallait lui confier, n'est-ce pas, le pouvoir. Parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait jamais ce qu'on aura. c'est la seule raison que qu'il avait, celui qui a conduit le pays à l'autonomie.
Monsieur le Président, à cette époque, il n'y avait personne d'autre que lui qui avait déjà été au pouvoir et qui n'avait pas pu être élu.
Le problème, c'est que vous parlez, n'est-ce pas, de 58. Mais il y a eu les élections, n'est-ce pas, en 1958. Mais tout simplement, on sait, quand vous voulez faire quelque chose, il faut en tenir compte, n'est-ce pas, de l'appréciation du peuple. Le président, n'est-ce pas, Grossi était l'homme du peuple. Il était très aimé par le peuple. C'était un homme, n'est-ce pas, humain. Un homme, n'est-ce pas, qui ne sait pas créer une place à part, qui n'est pas au-dessus du peuple. Il est issu du peuple et il est avec le peuple. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était mieux pour faire, n'est-ce pas, une politique de réconciliation. Mais ce qui venait d'être renversé, mais il ne pouvait pas faire n'est-ce pas. Et puis encore, le peuple a eu à les juger, à les juger à l'œuvre.
Revenons donc à la personnalité même de Nicolas Gruninski. Qui est-il? D'où vient-il? D'ascendance allemande par son père, commerçant originaire de Dantzig, issu de la famille royale Atapuakmé du centre du sud du Togo par sa mère, Nicolas Gruninski est né en 1913 dans la région d'Atapuakmé dans le centre du Togo. Il va vivre pratiquement toute sa jeunesse en France. Après des études secondaires au lycée Millet d'Aix-en-Provence, il entre à l'école spéciale des travaux publics de Paris, où il obtient les diplômes de conducteur des travaux publics et de technicien de bureau d'études. À son retour en Afrique, il entre dans l'administration. Il va occuper d'importantes fonctions dans les services des travaux publics du Dahomey et ensuite du Togo. Parallèlement à sa carrière administrative, Gruninski poursuit une carrière politique. Dès sa mobilisation en 1940, il va militer dans l'organisation clandestine togolaise gaulliste. C'est ainsi qu'en 1944, il devient le secrétaire général du mouvement Komba, un groupement de résistance aux autorités vichistes. Après l'armistice, il participe activement avec ses amis à la création du Parti Togolais du Progrès, le PTP, dont le programme d'action est fondé sur une politique de collaboration et d'association franco-togolaise. En 1948, il est élu secrétaire du syndicat du personnel des cadres supérieurs des travaux publics du Togo. Et en 1951, il devient député du Togo. Élu à l'Assemblée territoriale togolaise en 1955, il sera réélu en 1956. Il apparaît au moment du passage à l'autonomie interne, cette même année, comme le chef de file des modérés. Ce qui signifie en réalité le plus lié à l'administration française, contrairement à son beau-frère Sylvanus Olympio, qui était plutôt intransigeant et qui réclamait l'indépendance immédiate. C'est ainsi que Nicolas Gruninski devient en 1956 le premier ministre de la République togolaise.
Monsieur le haut-commissaire, mesdames, messieurs, mes chers collègues, mon propos sera bref, car il est avant tout de remercier chaleureusement tous les artisans de cette journée historique, de remercier surtout monsieur le haut-commissaire de son discours. Discours inaugural, discours d'ouverture, certes, mais nous savons tous qu'en prenant la parole ce matin dans cette enceinte, monsieur le haut-commissaire est venu, au nom de la France, proclamer solennellement que le territoire du Togo est devenu une république autonome.
Mais les élections d'avril 1958 constituent une sorte de plébiscite pour Sylvanus Olympio. Le peuple togolais reproche à Gruniski son lien trop fort avec la France. Nicolas Gruniski se retire alors calmement au Dahomey voisin, où il va fonder et faire prospérer une entreprise de transport. Il va aussi reprendre ses activités d'entrepreneur des travaux publics. Ceci jusqu'à ce jour du 13 janvier 1963, où l'armée l'appelle pour venir prendre en main les destinées du Togo.
Les archives d'Afrique. À la Foka.
Lorsque Nicolas Gruniski arrive au pouvoir, le Togo est très divisé. Il est aussi boudé par la plupart des pays africains qui refusent de reconnaître le nouveau pouvoir. Le chef de file de ce front de refus étant le président Sékou Touré de Guinée. Gruniski, qui a toujours privilégié la négociation, sait avec l'armée que la réconciliation nationale passe par un large dialogue entre toutes les composantes sociales et politiques du pays. Après maintes tractations, un projet constitutionnel institue une présidence et une vice-présidence. Ces deux postes clés sont confiés respectivement à Nicolas Gruniski et à Antoine Meachi. Une triple élection est organisée le 3 mai 1963, d'abord pour approuver le projet de constitution, ensuite pour confirmer les deux postes, puis pour légitimer la liste des 14 futurs membres de l'Assemblée législative. La participation avoisine les 100% malgré l'appel du PUT, le parti unifié togolais a boycotté ce scrutin. Ces élections viennent conférer une légitimité au pouvoir de Nicolas Gruniski. Il forme son gouvernement et présente aussitôt son programme.
Union, réconciliation, justice implique la fraternité et l'ordre. Aucune vengeance, aucune représaille, tous ces sentiments bestiaux ne peuvent animer un chef d'État soucieux de bien servir son pays. Aussi, mes chers compatriotes, hommes, femmes, enfants, tous, la main dans la main, dans la fraternité, nous travaillerons pour la construction nationale, pour le Togo. C'est pourquoi j'ai répondu oui à l'appel qui m'a été fait pour former un gouvernement provisoire, un gouvernement d'union nationale, dont la tâche essentielle sera la préparation d'élections libres à une date très rapprochée, à l'adresse des missions diplomatiques et consulaires, des étrangers qui œuvrent dans ce pays. Je dis tout simplement que la politique de mon gouvernement provisoire sera celle de la coopération amicale et confiante. C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan.
Sur le plan international, il entame une diplomatie intensive. Il va à la rencontre des présidents africains qui refusent de reconnaître son régime, multiplie ses interventions dans les instances régionales, continentales et internationales. Il se rapproche à nouveau de la France, qui avait quelque peu gelé ses relations avec le Togo d'Olympio. Bref, il consacre une telle énergie à redonner une image respectable au Togo qu'à la fin de sa première année de règne, le Togo retrouve sa place dans le concert des nations. Son règne va surtout se caractériser par le dialogue permanent. Gruniski veut s'entendre avec tout le monde. Son lien avec la France est tellement fort qu'il est mal perçu non seulement par son peuple, mais aussi par ses voisins qui y voient une allégeance à la métropole. Mais avec son voisin le plus immédiat, le Ghana, les relations ne sont pas toujours bonnes. On ne compte plus le nombre de conflits frontaliers. Et même si le président togolais hausse quelquefois le ton, il négocie ensuite.
Tous les incidents de frontières créés depuis près de 2 ans par le Ghana et qui viennent de se solder par, je dirais, un meurtre prémédité, eh bien, nous avons besoin de porter cette situation à la connaissance de tous les États frères africains. Et parce que la situation est grave. Et après avoir tué notre douanier, le lendemain, ils ont encore fait une incursion et dans notre territoire, et dans le poste frontière de Ségbé, à une cinquantaine de mètres, alors que la frontière est située à plus d'un kilomètre de la ligne. Nous ne voulons pour l'instant rien précipiter. Nous avons dit éventuellement que cette situation sera portée devant l'OUA, éventuellement. Nous attendons et que le gouvernement du Ghana nous donne des éclaircissements sur cette situation et sur ce meurtre. Nous attendons et non seulement des excuses, mais les mesures et propres à ne plus rééditer cet état de choses. Et c'est surtout cela qui compte pour nous. Les mesures d'apaisement.
Le 9 avril 1963, un complot contre le chef de l'État est découvert. Les instigateurs sont les leaders du PUT, le Parti Unifié Togolais, qui se sentent écartés du pouvoir. Les comploteurs sont arrêtés et condamnés à des peines de prison, allant de 20 ans par contumace pour Théophile Mali, qui s'est réfugié au Nigeria, à 10 mois ferme pour Koutoukli. Mais en réalité, le danger est ailleurs. Pour en savoir plus,
Restez avec nous dans la deuxième partie de The Magazine. Rendez-vous donc dans 10 minutes, juste après le journal.